découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Dans Centesimus Annus, Saint Jean-Paul II enseigne, comme l'Église catholique et ses prédécesseurs l'ont toujours fait, qu'une démocratie ne peut être considérée comme authentique et légitime que si elle se fonde sur le respect des valeurs objectives, universelles et transcendantes de la loi naturelle, qu'aucune majorité d'opinion ou qu'aucune majorité parlementaire ne saurait remettre en cause. Et c'est très important, c'est le deuxième grand critère qu'énonçait le pape Saint, Pie XII pardon, dans son radio message du 24 décembre 1944. Je cite ce passage de Centesimus Annus, un peu long, qui est le numéro 46. « Une démocratie authentique n'est possible que dans un état de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine. On tente affirmer aujourd'hui que l'agnosticisme et le relativisme sceptique représentent la philosophie et l'attitude fondamentale accordée aux formes démocratiques de la vie politique, et que ceux qui sont convaincus de connaître la vérité et qui lui donnent une ferme adhésion ne sont pas dignes de confiance du point de vue démocratique, parce qu'ils n'acceptent pas que la vérité soit déterminée par la majorité, ou bien qu'elle diffère selon les divers équilibres politiques. À ce propos, continue Jean-Paul II, il faut observer que s'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. » Fin de citation. C'est très fort comme formule. Hein. Une démocratie sans valeur conduit au totalitarisme. Hein. On peut rappeler que la majorité, que c'est une majorité parlementaire et démocratique qui a amené Hitler au pouvoir. Et on sait quelles ont été les conséquences de cette élection à la majorité. Ce que Jean-Paul II conteste radicalement, c'est en définitive la conception révolutionnaire selon laquelle la loi est l'expression de la volonté générale. C'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et ne dépend par conséquent que de la volonté plus ou moins arbitraire des hommes ou de certains hommes. Ce que Jean-Paul II et le magistère de l'Église et le bon sens réfutent et récusent, c'est donc ce qu'il est convenu d'appeler le positivisme juridique. Qu'est-ce que c'est que le positivisme juridique ? Bien, c'est la conception selon laquelle aucun principe, aucune vérité, aucune loi morale universelle ne peuvent être considérés comme supérieurs à la loi civile, c'est-à-dire aux lois purement humaines sur lesquelles on s'est mis d'accord à partir d'une volonté parlementaire, par exemple. Tel est bien ce que les promoteurs des lois qui ont abouti au génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, à l'extermination de millions d'individus sous Staline, ou aux lois racistes avant l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud, ont longtemps prétendu. Voyez. C'est encore ce que voudraient nous faire croire, aujourd'hui, ceux qui considèrent au moins implicitement que le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, relèvent de la seule volonté des hommes, et qu'ils peuvent être déterminés par une simple majorité de votants ou de parlementaires. Si aujourd'hui on décrète que c'est bien de tuer quelqu'un, si la majorité le décrète, c'est bien. Mais on peut très bien décréter le contraire dans une majorité successive. Sans doute est-ce la raison pour laquelle M. Jacques Chirac déclarait en 1995, à propos de l'encyclique Evangelium Vitae du pape Jean-Paul II et du problème de l'avortement, je cite le journal du dimanche du 2 avril 1995, une déclaration donc de M. Chirac, « Non à une loi morale qui primerait la loi civile et justifierait que l'on se place hors de la loi. Cela ne peut se concevoir dans une démocratie laïque. » Vous voyez, on ne peut pas mieux dire les choses. Hein, là où, au contraire, Saint-Pierre devant le Sanhédrin dira « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. » C'est en effet dans l'encyclique Evangelium Vitae sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine du 25 mars 1995 que Saint Jean-Paul II écrit, c'est le numéro 20, « Le droit à la vie, originel et inaliénable, est discuté ou dénié en se fondant sur un vote parlementaire ou sur la volonté d'une partie, qui peut même être la majorité de la population. » c'est le résultat néfaste d'un relativisme qui règne sans rencontrer d'opposition. Le droit cesse d'en être un parce qu'il n'est plus fermement fondé sur la dignité inviolable de la personne, mais qu'on le fait dépendre de la volonté du plus fort. Ainsi, la démocratie, en dépit de ses principes, s'achemine vers un totalitarisme caractérisé. Vous voyez, les paroles de Jean-Paul II étaient très fortes. Je continue avec ces quelques passages de l'encyclique Evangelium Vitae pour peut-être enfoncer le clou, mais pour dire combien cela est déterminant pour comprendre ce que c'est qu'une saine démocratie. Un peu plus loin, il dit au numéro 69, je cite, « Dans la culture démocratique de notre temps, l'opinion s'est largement répandue que l'ordre juridique d'une société devrait se limiter à enregistrer et à recevoir les convictions de la majorité, et que par conséquent, il ne devrait reposer que sur ce que la majorité elle-même reconnaît et vit comme étant moral. » Au numéro 70, qui est un peu plus long, mais que je cite aussi in extenso, « Lorsqu'une majorité parlementaire ou sociale décrète la légitimité de la suppression de la vie humaine non encore née, même à certaines conditions, ne prend-elle pas une décision tyrannique envers l'être humain le plus faible et sans défense ? » Évidemment, condition qu'on le reconnaisse bien que, dès la première cellule, il s'agit bien d'un être humain, puisqu'il le deviendra. Nous avons tous été, quant à nous, des embryons. Je continue la citation. « La conscience universelle réagit à juste titre devant des crimes contre l'humanité dont notre siècle a fait la triste expérience. » On pense évidemment au nazisme et même au communisme. Ces crimes cesseraient-ils d'être des crimes si, au lieu d'être commis par des tyrans sans scrupules, ils étaient légitimés par l'assentiment populaire? En réalité, la démocratie ne peut être élevée au rang d'un mythe, au point de devenir un substitut de la moralité ou d'être la panacée de l'immoralité. Fondamentalement, elle est un système et, comme tel, un instrument et non pas une fin. Son caractère moral n'est pas automatique, mais dépend de la conformité à la loi morale à laquelle la démocratie doit être soumise comme tout comportement humain. Il dépend donc de la moralité des fins poursuivies et des moyens utilisés. Le fondement de ces valeurs ne peut se trouver dans des majorités d'opinions provisoires et fluctuantes, mais seulement dans la reconnaissance d'une loi morale objective qui, en tant que loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, est une référence normative pour la loi civile elle-même. Et pour conclure, le numéro 71, pour l'avenir de la société et pour le développement d'une saine démocratie, il est donc urgent de redécouvrir l'existence de valeurs humaines et morales essentielles et originelles, qui découlent de la vérité même de l'être humain et qui expriment et protègent la dignité de la personne. Ce sont donc des valeurs qu'aucune personne, aucune majorité, ni aucun État ne pourront jamais créer, modifier ou abolir, mais que l'on est tenu de reconnaître, respecter et promouvoir. Fin de citation. Et je me souviens encore une fois que dans l'encyclique Fratelli Tutti, surtout dans le sixième chapitre intitulé Dialogue et amitié sociale, le pape François rappelle que on doit croire en des valeurs universelles inscrites dans la nature humaine et qui s'imposent à tous. Qu'une démocratie telle que la nôtre puisse évoluer, comme l'affirme saint Jean-Paul II, dans le sens d'un totalitarisme caractérisé, c'est là une affirmation sans doute qui ne manque pas de surprendre et de choquer. On pourra être un peu étonné que le pape Jean-Paul II ait été aussi incisif. Or, cette dérive totalitaire de la démocratie n'est-elle pas en germe, ou du moins dans la logique du contrat social, cher à Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il énonce, je cite, « que les clauses du pacte social se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation à toute la communauté. Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps, ce qui signifie autre chose, sinon qu'on le forcera d'être libre. » Et n'est-ce pas ce que semblait prophétiser Alexis de Tocqueville, qui écrit dans le De la démocratie en Amérique, nous sommes au XIXe siècle, je cite, « Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité du peuple a le droit de tout faire. Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une puissance quelconque, qu'on appelle peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, qu'on l'exerce dans une monarchie ou dans une république, je dis, là est le germe de la tyrannie. »